Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur le départ de la mission des Nations Unies déployée dans l'est de la RDC. Cela fait maintenant 25 ans que les casques bleus sont déployés sur le terrain. Mais à la demande des autorités, eh bien, ils vont devoir quitter le pays. La MONUSCO vient d'ailleurs de mettre fin à ses activités dans le sud Kivu. Elle est encore présente dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, mais c'est vraiment une question de mois car en théorie, le retrait définitif des casques bleus est prévu à la fin de cette année. Alors que vous inspire ce désengagement? Craignez-vous un vide sécuritaire? On en parle, on en débat ce matin ensemble, 33 9 693 693 70 et vos nombreuses réactions déjà sur nos réseaux sociaux. J'en ai des dizaines sous les yeux, j'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, votre rendez-vous privilégiés avec les journalistes de RFI. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Nous allons commencer avec Abdoulaye à N'Djamena. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les fidèles auditeurs de RFI.
Vous êtes donc au Tchad et vous avez des questions sur la mort de Naël. Léa Boutin-Rivière en parlait un instant dans son journal. Naël, ce jeune de 17 ans, tué il y a tout juste un an par un policier lors d'un refus d'obtempérer pendant un contrôle routier. C'était à Nanterre, près de Paris. Et vous avez des questions, d'autant que, Abdoulaye, si j'ai bien compris, vous êtes vous-même un habitant de Nanterre. Hein. Vous êtes en ce moment à N'Djamena en vacances.
Oui, bien sûr, Juan Gomez. Un an après la mort de Naël, où en est l'enquête? Quelles procédures judiciaires sont en cours?
Alors, où en est l'enquête? Bonjour Amélie Beaucourt.
Bonjour Juan, bonjour Abdoulaye.
On se souvient que la mort de Naël avait déclenché une vague de soulèvements partout en France contre les violences policières. Où en est l'enquête un an après alors?
Alors, l'enquête, elle est ouverte donc depuis un an et son objectif, c'est de déterminer les circonstances de la mort de Naël. L'enjeu principal, c'est de savoir si le policier était en danger au moment du tir. C'est ce qu'il avait rapporté dans sa première version, immédiatement après les faits. Il expliquait que son collègue et lui se trouvaient devant le véhicule qui menaçait de les écraser. Mais la vidéo, qui a d'ailleurs abondamment tourné sur les réseaux sociaux, et qu'Abdoulaye, vous l'avez sûrement vu, a rapidement contredit cette version. On y voit donc deux policiers qui tiennent en joue le conducteur d'une voiture, Naël, et qui se tiennent debout sur le côté gauche de la voiture. Il y a eu une première reconstitution des faits sur place le mois dernier, qui a permis aux avocats de se faire des idées différentes sur ce qui s'était passé. L'avocat de la mère de Naël estime que le policier n'était pas en danger, mais l'avocat du policier, lui, considère que son client a pu, je cite, « ressentir qu'il aurait pu être écrasé ». Les enquêteurs ont aussi fait analyser le son de la vidéo pour savoir ce que les policiers semblent crier à Naël. Et des expertises ont été demandées pour savoir si Naël avait été frappé par les policiers également, car il présentait des traces de coups sur les bras.
Et quelles sont les poursuites engagées contre le policier, celui qui a tiré sur Naël?
Alors, il a rapidement été mis en examen pour homicide volontaire au lendemain du drame, et même placé en détention provisoire. C'est une mesure que le juge des libertés peut prononcer par exemple s'il y a un risque de trouble à l'ordre public, des émeutes là en l'occurrence, ou s'il y a un risque de concertation avec d'autres personnes impliquées dans l'enquête. Après 5 mois de prison, il est finalement sorti en novembre et a été placé sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'il doit se tenir à la disposition des juges d'instruction. En revanche, concernant son retrait de la police ou une potentielle interdiction d'exercer, son avocat est resté très discret, donc on n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet. On sait juste qu'avec le contrôle judiciaire, il ne peut pas détenir une arme.
Ouais. Je le disais en préambule, la mort de Naël avait déclenché le soir même une vague d'émeutes à travers toute la France. Durant plus d'une semaine, plusieurs villes ont été le théâtre de dégradations, de pillages, d'affrontements entre d'un côté les jeunes et de l'autre les forces de l'ordre, des affrontements qui ont fait, je le précise, un mort et plusieurs blessés graves hein, côté des émeutiers. Est-ce qu'on sait si justement des procédures ont été lancées concernant justement ces émeutiers blessés?
Oui, on sait qu'il y a à peu près une quarantaine d'enquêtes pour violences policières qui ont été confiées à l'IGPN, donc c'est la police des polices, qui n'a d'ailleurs pas répondu à nos questions à ce sujet. Plusieurs mises en examen de policiers ont été prononcées, notamment pour ce jeune homme que vous avez évoqué, un jeune homme de 27 ans qui est décédé à Marseille, et puis pour plusieurs victimes éborgnées. La poursuite de ces enquêtes, elle est assez complexe, Juan, car les preuves manquent. Tout n'est pas systématiquement filmé, l'atmosphère en l'occurrence ici est assez chaotique, il fait sombre, et c'est ce qui est arrivé justement à l'un des plaignants, un jeune homme de 23 ans qui dit avoir été touché par un tir de LBD et frappé par la police. Il sort de l'hôpital avec un morceau de crâne en moins. Après un an d'investigation, faute de pouvoir identifier les auteurs, sa plainte a été finalement classée sans suite la semaine dernière. Et pour les enquêtes qui se poursuivent, il ne faut pas espérer de conclusion avant 5 ou 6 ans. C'est la moyenne en ce qui concerne les investigations pour violences policières.
5 ou 6 ans. Abdoulaye, a-t-on répondu à votre question ?
Oui, je suis totalement satisfait. Ouais.
Bah, tant mieux. Merci à vous et merci à Amélie Beaucourt. Vous nous écoutez en France, en région parisienne. Vous souhaitez réagir un an après, jour pour jour, la mort de Naël. A-t-on tiré les leçons, les conséquences de ce drame ? On a envie d'en parler. Et si vous avez envie d'en parler, faites-le. Profitez-en. Demain, c'est vendredi. Vous commentez l'actualité de la semaine, l'actualité de votre choix. Merci beaucoup, Amélie Beaucourt. À bientôt, journaliste au service France de RFI. Tidiane nous rejoint, il est à Nouakchott. Bonjour Tidiane.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur RFI. Vous avez des questions sur l'élection présidentielle de samedi en Mauritanie ?
Effectivement Juan. Je suis un Sénégalais qui habite à Nouakchott depuis 2009. Et oui. Vraiment, il faut dire que j'ai été surpris de voir autant d'affiches du président sortant Mohamed El Khazouani dans la capitale. Quel peut être alors le poids de l'opposition dans cette élection, Juan ?
Ah, je rappelle qu'il y a tout de même 7 candidats. Hein, 7 candidats en lice pour la présidentielle. Parmi eux, le président sortant qui brigue un deuxième mandat. Bonjour Léa Lisa Vesteroff.
Bonjour Juan, bonjour Tidiane.
Envoyé spécial de RFI à Nouakchott, où la campagne bat son plein. C'est vraiment la dernière ligne droite avant le scrutin. Quel peut être le poids de l'opposition, Léa Lisa ?
Alors, je n'ai pas de boule de cristal, hein, vous vous en doutez, mais selon plusieurs observateurs de la vie politique mauritanienne, l'opposition, cette année, risque en effet d'avoir du mal à faire le poids face au président sortant. Pourquoi ? D'abord parce que cette année, parmi les 6 opposants qui sont candidats, à part le militant des droits humains, Biram Dahabed, qui est une figure historique de l'opposition et connue, et le candidat du parti islamiste Tawassoul Hamadi Oul Sidi El Mokhtar, dont le parti a 14 siège au Parlement, eh bien tous les candidats sont de nouvelles figures, peu connues donc des Mauritaniens et sans assise électorale. Les opposants historiques, eux, qui sont tous âgés désormais, ont choisi de rallier le camp du président sortant dans un pacte républicain, ce qui participe, Juan, à diviser le camp de l'opposition. On est dans un moment de transition, m'expliquait un expert de la vie politique ici, avec un renouvellement de cette classe politique, mais du coup, pas de véritable figure forte ou de discours fort pour unir toute l'opposition derrière elle et faire le poids face au président sortant, même si la lutte contre la corruption et le besoin d'une justice indépendante et de plus d'égalité entre les citoyens sont les thèmes qu'on retrouve chez tous les candidats.
Et le risque, Léa Lisa Vesteroff, c'est que cette année, on assiste à une sorte de dispersion des voix face à la candidature du président sortant.
Oui, voilà, c'est le premier risque. L'autre aspect qui joue en la défaveur de l'opposition, finalement, c'est celui des moyens financiers. Avec, d'un côté, un président sortant qui dispose des moyens de l'État, du soutien de grands hommes d'affaires mauritaniens pour faire campagne dans tout le pays, ce qui veut dire toucher beaucoup plus d'électeurs, mais aussi obtenir le soutien des maires, des notables ici et là, qui à leur tour ont un certain poids pour influencer le vote. Et cette disproportion des moyens financiers, c'est ce qu'observait Tidiane ici au centre-ville, où le parti au pouvoir a en effet des dizaines de tentes et d'affiches à l'effigie du président sortant. On voit beaucoup moins d'affiches des candidats de l'opposition et les partis de l'opposition l'ont confirmé, il manque de moyens financiers cette année. Ils ont peu de chefs d'entreprise qui les ont suivis. Ils ont donc fait le choix de se concentrer sur des opérations de porte-à-porte moins onéreuses ou de miser sur les réseaux sociaux. Donc, au vu de tous ces éléments, tout porte à croire que les candidats d'opposition, je le disais, n'arriveront sans doute pas à faire le poids face à la candidature du président sortant. Les observateurs jugent donc possible du président Mohamed Razouani.
Ah, on est en train de vous perdre, Léa Elisabeth Serov. J'ai cru comprendre. On va essayer de rétablir le réseau. Que donc les experts pensent à une possible victoire du président sortant dès le premier tour, c'est ça? Ah, on a perdu Léa Elisabeth Serov. On est en direct avec Nouakchott.
Je suis là. Est-ce que
ah, vous êtes là. Ça y est, vous êtes de retour. Donc vous disiez bien, Léa Elisabeth, parce que votre voix a commencé à se robotiser, qu'une victoire du président Mohamed Ould Razouani dès le premier tour était possible, d'après plusieurs observateurs.
Oui, c'est l'analyse qu'en font les observateurs ici. Évidemment, à voir demain comment se déroule le vote. Mais ce qui restera en tout cas intéressant à observer, c'est le taux de participation. À voir à quel point cette présidentielle mobilise. Voir aussi qui arrive second ou troisième. Car cette présidentielle prépare la prochaine, me disait un observateur. Et pour finir, c'est en tout cas la première élection présidentielle hein, où la campagne électorale est aussi calme et très paisible, me disait encore un journaliste ici. Voilà, à suivre dans les prochains jours.
À suivre et on suivra évidemment avec vous, Léa Elisabeth Serov, les dernières heures de cette campagne électorale. Tidiane, a-t-on répondu à votre question?
Parfait, Rouen. Je souhaite un bon vote à tout le peuple mauritanien.
Et merci à vous de nous écouter à Nouakchott, 8h22, en temps universel, tous les matins, RFI répond à vos questions, nos experts ici en studio, nos envoyés spéciaux, comme à l'instant avec Léa Elisabeth Serov, mais aussi nos correspondants permanents. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour Juan.
Correspondant permanent de RFI à Pékin, on s'est permis de vous appeler Stéphane, car nous avons des questions sur la sonde chinoise Chang'e 6, Abel. Soyez le bienvenu.
Allô, monsieur Van, bonjour.
Bonjour Abel, vous êtes au Togo. On vous écoute avec Stéphane Lagarde.
La sonde chinoise chargée d'échantillons de la face cachée de la Lune a atterri au début de semaine dans le désert de Gobi. À ce sujet, j'ai deux questions.
Oui.
Quel était l'intérêt scientifique de cette mission?
Alors on va déjà répondre à cette première question. L'intérêt scientifique, Stéphane Lagarde, c'est quand même une première mondiale. Je parle sous votre contrôle, je crois que jamais des échantillons n'avaient été rapportés sur Terre provenant justement de la face invisible de la Lune.
Oui, c'est ça, c'est ce qui est intéressant ici, effectivement, Abel et Juan, c'est que c'est nouveau. Peu de missions ont jusqu'à présent permis d'étudier la face cachée de la Lune. Et vous avez raison, Juan, c'est la première fois aussi qu'on a des prélèvements, hein, des échantillons lunaires. Il doit y avoir une conférence bientôt ici, en ce moment, en Chine, pour nous dire combien de kilos. Alors, on avait dit 2 kilos, ça va être précisé. En tout cas, on a ces échantillons, cette poussière de Lune, ces rochers de Lune qui ont été ramenés. On a vu des images, d'ailleurs, là ces dernières heures, où on montrait, ça ressemblait d'ailleurs, Abel, un peu à, comme des cuisiniers. Ils sont habillés tout en blanc, là, nos scientifiques chinois. Ils ont des toques et ils ont des gants bleus et puis ils ouvraient le module avec des grands tournevis pour voir, pour sortir donc ce qu'il y avait à l'intérieur. L'objectif, c'est aussi d'aborder une face plus brute du satellite naturel de la Terre, plus de cratères hein, aussi. C'est une croûte plus épaisse, la face cachée de la Lune. Hein, je l'ai appris en étudiant tout ça. Je ne sais pas si vous avez noté aussi, Abel, où s'est posée cette sonde chinoise. C'est très important. On a vu hein, ces images du module qui ressemble à un trépied, là, une boîte avec de l'aluminium autour. Il s'est posé à un endroit précis et puis surtout, il avait un bras robotique avec une foreuse. Il a pu creuser dans ce qu'on appelle le bassin pôle sud Aitken. Alors moi je connais pas bien Aitken, hein, pas Aitken, pardon, mais Aitken, hein, c'est pas la même chose. Et ça c'est un endroit qui fait 2500 km de diamètre pour 13 km de profondeur. Et c'est important parce que ce qu'on appelle un bassin d'impact, c'est là où il y a des milliers d'années, un bolide, peut-être une météorite ou autre chose, a fracturé la croûte lunaire. Et les scientifiques chinois pensent donc pouvoir, en piochant à cet endroit précis, avoir accès à des couches ancienne du manteau de la Lune. Et donc comprendre comment était l'astre au moment de sa formation, c'est important de décrocher ce côté obscur de la Lune. Pourquoi? Parce que en ramenant ces cailloux lunaires, on va peut-être voir aussi comprendre un peu plus sur la formation de la Lune, mais aussi sur la formation de la Terre, tout simplement, comment se construit une planète.
Abel, je vous ai coupé la parole, veuillez m'en excuser, mais vous aviez donc une deuxième question.
Oui, effectivement. La deuxième question, c'est de savoir pour quelle raison la Chine a décidé d'associer des partenaires étrangers pour cette mission.
Et il me semble, Stéphane Lagarde, qu'il y avait un appareil français à bord hein, de cette sonde.
Oui, oui, parmi les charges utiles, il y avait donc un petit satellite pakistanais, un instrument de mesure suédois et un instrument français. Le service scientifique de RFI vous en a beaucoup parlé, ça s'appelle le DORN. Il s'agissait d'étudier les gaz rares, les radons, qui réagissent aux températures extrêmes. C'est important pour la Chine, tout simplement parce que c'est aussi du soft power. La Chine rappelle d'ailleurs qu'elle a, depuis le début des missions lunaires, partagé à 7 reprises, avec plus de 130 missions de chercheurs dans le monde, eh bien, ces cailloux, ces prélèvements qu'elle a fait sur la Lune.
Merci infiniment. Stéphane Lagarde, bonne fin d'après-midi. Midi à Pékin et à Abel, bonne journée donc à Lomé, capitale du Togo. Allez, c'est la dernière question pour ce matin. Alexis, bonjour.
Bonjour. Hein.
Vous avez des questions concernant des mandats d'arrêt lancés par la CPI cette semaine?
Effectivement. Après Vladimir Poutine, la CPI a émis des mandats d'arrêt contre les chefs de l'armée russe et l'ex-ministre de la Défense. Ma première question est de savoir quelles conséquences peut-on attendre de ce mandat d'arrêt dans la mesure où celui émis contre Poutine n'a aucun effet.
Ah, c'est vrai que ça fait plus d'un an que Vladimir Poutine fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI. Bonjour Alexis Dessoif.
Bonjour.
Vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains, vous êtes également avocat et notamment avocat à la Cour pénale internationale. Êtes-vous d'accord, Alexis Dessoif, lorsqu'Alexis, à l'instant, nous dit que le mandat d'arrêt contre le président russe n'a eu aucun effet ?
Non, je comprends qu'il pose la question. Parce qu'on peut avoir l'impression que ça n'a pas changé la donne dans la guerre que fait la Russie à l'Ukraine, mais il est inexact de dire que ça n'a aucun effet. D'abord, il y a un effet politique évident qui montre qu'un haut dirigeant d'un pays agresseur peut être visé par un mandat d'arrêt international, mais au-delà de l'impact politique du signal qui est ainsi donné par la Cour pénale internationale, il y a cette réalité judiciaire qui n'est pas anodine du tout. C'est un acte extrêmement important. La délivrance d'un mandat d'arrêt, c'est probablement un des actes les plus importants qu'une juridiction peut faire. Ça veut dire que où que la personne se trouve, elle devra être arrêtée et conduite devant les juges à la haie, à la Cour pénale internationale, pour être jugée.
Et en même temps, Alexis Dessoif, ça ne vous a pas échappé que Vladimir Poutine a continué à voyager, certes en choisissant ses destinations, mais ça ne l'a pas empêché d'être, il y a encore la semaine dernière, en Corée du Nord, ensuite au Vietnam, il a été en Arabie Saoudite, en Chine, au Kyrgyzstan, il voyage.
Oui, il voyage dans des pays qu'il doit choisir, il ne peut plus voyager où il veut parce qu'il n'ose pas courir le risque de se faire arrêter et déféré devant la Cour pénale internationale. Et ça, c'est un signal très important. Et c'est pour ça que le soutien à la Cour pénale internationale par les États tiers, par tous les pays du monde, est important. Parce que si tous les États collaborent correctement avec la CPI, finalement, un dirigeant qui est visé par un mandat d'arrêt international de la CPI, dès qu'il quitte son pays, risque de se faire arrêter pour être amené devant ses juges. Et c'est ça, finalement, le principe de la juridiction internationale, c'est de lutter contre cette impunité. Et finalement, les dirigeants visés par un mandat sont enfermés dans leur propre pays. Ils ne peuvent plus en sortir sous peine de devoir faire face à leurs juges. Et il faut savoir que ces crimes de droit international sont imprescriptibles et que la justice, par définition, c'est parfois frustrant. Elle est lente, elle prend son temps. Mais ça veut aussi dire qu'un jour, peut-être, on va voir Poutine dans le box des accusés, parce qu'on ne sait pas de quoi demain la politique en Russie sera faite. Il y aura peut-être un changement de pouvoir, il y aura peut-être une envie de se débarrasser de Poutine et de l'envoyer à la haie, comme on a vu dans d'autres cas dans le passé. La roue peut vite tourner, et la justice internationale sera toujours là pour juger les crimes du passé, vu que ces crimes de droit international humanitaire, les crimes les plus graves, ils sont imprescriptibles.
Effectivement, nous disions tout à l'heure que Vladimir Poutine choisissait évidemment ses destinations, et c'est bien pour cela, on en a beaucoup parlé à l'époque sur RFI, qu'il ne s'était pas rendu à cette réunion très importante des BRICS en Afrique du Sud, puisque l'Afrique du Sud aurait théoriquement dû arrêter le président russe. En tout cas, le Kremlin a évidemment réagi après la publication de ces deux nouveaux mandats d'arrêt visant des personnalités russes. Le Kremlin juge absurde les mandats d'arrêt. Merci infiniment Alexis Tessoif d'avoir pris quelques minutes. Je sais que votre agenda est très chargé. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'AFIDH, avocat à la Cour pénale internationale. Alexis, bonne journée en République démocratique du Congo. Tiens, d'ailleurs, on parlera de la RDC juste après la dernière édition d'Afrique Matin, et on parlera surtout des casques bleus qui quittent progressivement le pays. Cela fait maintenant 25 ans qu'ils sont sur place. Pour quel résultat? En tout cas, les autorités leur ont demandé de quitter, de plier bagages. C'est ce qu'ils font en ce moment même. Donc on en parlera évidemment tout